Mercredi 15 février, bonne fin d'après-midi, bon retour à la maison si vous rentrez ou êtes sur le point de rentrer du travail. Merci de s'intoniser, le CILS FM 107,9. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. C'est 9 degrés actuellement au centre-ville de Victoria, à 16h et des poussières. Les bulletins d'infos de Denis Lépine vont ouvrir le bal, comme d'habitude dans quelques instants. Je vous retrouve dans 4 minutes avec la suite de l'émission. En interview aujourd'hui, vers 16h40, il sera question, en compagnie de Marie-Hélène Bourret, de la crise des surdoses aux opioïdes ici, dans la ville de Victoria. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Kirsty Duncan, ministre des Sciences, doit faire une annonce en fin d'après-midi lors d'un passage au complexe de recherche avancée de l'Université d'Ottawa. Son bureau, qui a qualifié l'annonce d'importante, a précisé qu'il sera question d'un appui accordé à la recherche scientifique et à l'innovation. L'appui sera axé sur la collaboration entre le milieu universitaire et le secteur privé partout au pays. Le gouvernement Trudeau estime que cette annonce permettra en bout de ligne d'assurer une économie plus innovatrice et la croissance de la classe moyenne au Canada. Les statistiques publiées aujourd'hui par l'Association canadienne de l'immeuble indiquent que les ventes résidentielles ont diminué d'un mois à l'autre à l'échelle nationale le mois dernier. La baisse se chiffre à 1,3% de décembre 2016 à janvier 2017. De plus, le prix de vente moyen au Canada a peu changé, avec une hausse de 0,2% de janvier 2016 à janvier dernier. Les ventes de janvier se sont révélées moins élevées qu'en décembre dans près de la moitié des marchés, notamment dans les trois centres urbains les plus importants au Canada, Toronto, Vancouver et Montréal. Cliff Iverson, président de l'association, a déclaré que les acheteurs de maisons ont des défis à relever cette année, notamment les nouveaux règlements sur les prêts hypothécaires qui rendent l'admissibilité à un prêt beaucoup plus difficile. La prochaine conférence annuelle sur le secteur des mines et des métaux aura lieu du 26 février au 1er mars 2017 à Hollywood, en Floride. La conférence réunira des leaders du secteur des mines et des métaux, ainsi que des investisseurs institutionnels du monde entier, dont le Canada. Plus de 1000 professionnels de l'industrie représentant quelques 500 entreprises provenant de 35 pays seront sur place. Parmi les sociétés qui seront représentées, notons Agnico Eagles, Alcoa et Barrick Gold. L'événement est organisé en partie suite au travail des analystes de BMO installés à Toronto. Ralph Goodale admet qu'il n'a pas abordé avec le secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, John Kelly, les cas de citoyens canadiens musulmans refoulés à la frontière au cours des derniers jours. Le ministre fédéral de la Sécurité publique a déclaré le tout alors qu'il se rendait à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres mardi. Il a ajouté que de tels cas doivent être bien documentés avant d'être présentés pour obtenir des résultats. Il a dit aussi qu'il surveille très attentivement la situation. Après les démocrates, les républicains réfractaires et les analystes politiques, voilà que c'est Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine, qui demande à son tour à la population et l'establishment politique des États-Unis à faire attention sur les éventuelles mesures de relance budgétaire envisagée par la Maison-Blanche. S'exprimant devant une commission du Sénat à Washington, Janet Yellen a dit aussi espérer que les changements budgétaires seront compatibles avec un exercice viable. Donald Trump a promis, entre autres, de réduire les impôts, notamment du côté des sociétés. Patty Hajdu, ministre fédérale du Travail, invite les Canadiens à faire valoir leur point de vue sur le harcèlement et la violence sexuelle dans les milieux de travail fédéraux. La ministre Hajdu a dit que les gens méritent des milieux de travail exempts de harcèlement et de violence sexuelle. Mariam Monsef, ministre de la Condition féminine, a dit pour sa part que c'est en discutant ouvertement que nous pourrons accentuer les efforts de la prévention. Il y a 52 ans aujourd'hui, le drapeau canadien, l'unifolié, était hissé pour la première fois sur la colline du Parlement à Ottawa. En ce jour du drapeau national du Canada, le gouvernement canadien invite la population d'un océan à l'autre à célébrer ce symbole de l'identité canadienne. Plusieurs événements sont prévus aujourd'hui à travers le pays pour rendre hommage au drapeau. David Johnston remettra ce vendredi l'Ordre du Canada à 3 compagnons, 11 officiers et 28 membres. Rappelons que près de 7000 personnes ont été investies de l'Ordre depuis 1967. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de Pittsburgh par blanchissage contre les Canucks de Vancouver 4-0. Buffalo 3, Ottawa 2 et Toronto a lessivé les Islanders de New York 7-1. Également, gain de Winnipeg 5-2 contre Dallas et Edmonton 5, l'Arizona 2. Ce soir, notamment, Toronto sera à Columbus et Calgary recevra Philadelphie. Toujours au hockey, on rappelle que le Canadien de Montréal a congédié son entraîneur-chef Michel Therrien. Claude Julien, congédié par Boston la semaine dernière, a été embauché par le tricolore pour succéder à Therrien. Et dans la NBA, hier, victoire de Chicago 105-94 contre Toronto. Ce soir, les Raptors seront à nouveau à l'œuvre contre Charlotte.
16h05, vous écoutez CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info de fin de journée en semaine. On va toucher quelques mots de la météo. C'est 10 degrés actuellement au centre-ville de Victoria. Ça oscille entre 9 et 10. C'est d'ailleurs 10 du côté de Nanaimo et 10 également à Vancouver. Et la pluie recouvre le sud de l'île ainsi que le sud de la province. Et le scénario de pluie se reproduit sur plusieurs jours. On est vraiment dans une séquence de pluie. C'est une sentence de pluie qui nous est donnée par Mère Nature. Donc on a 9 degrés, 10 degrés, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Et ça se reproduit demain, jeudi 16 février, 11 degrés avec des averses. Vendredi 17 et par la suite durant le week-end des 18 et 19 février, c'est pareil. La probabilité de pluie est moindre toutefois pour le samedi 18 février, donc on aura peut-être un peu de répit, mais ça demeure très nuageux. Et selon les prévisions d'Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca, la pluie est présente au moins jusqu'au mardi 21 février. Alors, pour de plus amples détails, comme d'habitude, se rendre sur le portail météo.gc.ca. Et sans plus tarder, c'est le Radio-Journal des Nations Unies et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal radio d'ONU Info. Avec en titre, le secrétaire général poursuit sa tournée dans les Émirats et au Moyen-Orient. Réunion du Conseil de sécurité sur la situation en République centrafricaine. Les derniers casques bleus de l'ONU quittent la Côte d'Ivoire. L'OIT examine les atouts et les difficultés du télétravail et puis en dossier, gros plan sur le rétablissement de l'eau courante à Alep. Le secrétaire général de l'ONU poursuit donc sa tournée dans les Émirats et au Moyen-Orient. Après une série de réunions bilatérales ce matin avec les dirigeants du Qatar, Antonio Guterres s'est rendu en Égypte. Lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Chokri, le secrétaire général est revenu sur les défis que connaît la région. On l'écoute.
J'ai toujours considéré que l'Égypte, en raison de son histoire, sa culture et sa position géopolitique, a un rôle central à jouer pour trouver une solution aux problèmes de la région. C'était donc pour moi un énorme privilège de pouvoir revenir au Caire et discuter avec le président Sisi des différentes crises auxquelles nous faisons face. Tout d'abord en étant en complet accord sur le fait qu'il n'y a pas de plan B à la situation entre les Palestiniens et les Israéliens, qu'une solution à deux États et que tout doit être fait pour préserver cette possibilité. Deuxièmement, un engagement ferme à s'assurer que la lutte contre le terrorisme se fasse avec détermination. Mais pour qu'elle soit effective, il faut aussi trouver des solutions politiques aux crises de la région. D'où l'importance d'aller de l'avant avec les pourparlers de Genève sur la Syrie, de poursuivre avec détermination la politique de réconciliation nationale et d'unité en Irak, mais aussi une conviction ferme qu'il faut donner une chance à la paix à court terme en 2017, à la fois au Yémen et en Libye.
La paix durable pour la République centrafricaine est à la portée de tous, a déclaré ce mercredi le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Devant le Conseil de sécurité, Hervé Latsous a rendu compte des derniers développements dans le pays, indiquant notamment que le retour à un calme relatif à Bangui, la capitale, contraste avec une recrudescence des violences liées à la transhumance dans le nord-ouest du pays. Ces violences ont entraîné une dégradation de la situation humanitaire. Plus de la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire et l'on compte 100 000 nouveaux déplacés. Hervé Latsous demeure toutefois positif et a appelé la communauté internationale à maintenir son appui à la RCA. Il a aussi fait le point sur l'adaptation de l'ONU à la situation sur le terrain. On l'écoute.
Les groupes armés ne doivent pas faire oublier que c'est l'immense majorité de la population centrafricaine qui aspire à retrouver la paix. Pour ce qui concerne la MINUSCA, nous continuons à nous adapter à cette situation évolutive. Nous avons pas mal modifié notre schéma de déploiement. Nous avons essayé d'accentuer la mobilité. Nous avons réduit en particulier le nombre de nos bases. Il nous faut être plus flexible, il nous faut être plus mobile. Nous avons maintenant cette force de réaction rapide portugaise. Nous avons une compagnie de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Nous avons réexaminé le dispositif aérien et en particulier nous mettons l'accent sur les capacités d'évacuation médicale de nuit. Et puis nous sommes sur le point de déployer une compagnie de drones de surveillance fournis par les forces armées française et je crois que ça va être un élément de dissuasion très important vis-à-vis de ceux qui continuent à créer des problèmes sur le terrain.
Les derniers casques bleus de l'ONU en Côte d'Ivoire sont en train de quitter le pays. Comme l'avait indiqué la semaine dernière devant le Conseil de sécurité, la représentante spéciale du secrétaire général pour ce pays. Une première partie des 1990 soldats de la paix qui restaient sont partis ce mercredi aux premières heures et le reste suivra demain matin. Une composante civile de l'ONU-CI demeurera sur place jusqu'à la fin du mois de juin. Aïchatou Mindaoudou, qui dirige également l'ONU-CI, revient sur ce que signifie ce départ pour le pays.
Ces 1990 casques bleus, tous, quittent la Côte d'Ivoire au 15 février. Qu'est-ce que ça signifie pour la Côte d'Ivoire ? Aussi bien le départ de la mission que le départ des casques bleus signifie pour la Côte d'Ivoire qu'il y a un retour à la stabilité, qu'il y a un retour à la paix et que la Côte d'Ivoire est redevenue un pays normal. C'est ce que cela signifie. Parce que comme vous le savez, la présence d'une mission de maintien de la paix est une anomalie dans un pays normal. Donc si le pays redevient normal, c'est tout à fait logique que la mission de maintien de la paix se retire.
Travailler en tout temps, en tout lieu, est une tendance à la mode et souvent mise en avant. Mais selon un nouveau rapport conjoint OIT-Eurofond sur le télétravail, si les technologies de communication modernes peuvent favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, elles ont parfois des conséquences sur la santé des travailleurs. Les explications d'Alpha Diallo.
Parmi les atouts du télétravail, l'Organisation internationale du travail met en avant le gain de temps et d'argent sur les transports, une plus grande autonomie et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De leur côté, les employeurs y voient surtout une réduction de l'espace de bureau nécessaire, une plus grande motivation du personnel et une meilleure productivité. Mais le document de l'OIT décèle une autre facette du télétravail, car à forte dose, il peut facilement nuire à la santé avec deux mots, stress et insomnie. En cause, un allongement de la durée du travail et un chevauchement entre le travail salarié et la vie privée qui entraîne forcément une intensification des tâches. L'étude montre d'ailleurs que presque la moitié des employés très mobiles font état de niveaux très élevés de stress comparé à 25% chez ceux qui travaillent tout le temps au bureau. En conclusion, le rapport préconise un droit à la déconnexion comme le font déjà certaines entreprises qui imposent l'extension des serveurs informatiques en dehors des heures de travail afin d'empêcher l'envoi de courriels pendant les temps de repos et les vacances.
Enfin, en Syrie, l'approvisionnement en eau a progressivement repris à Alep grâce aux récentes réparations du réseau municipal. C'est ce qu'a annoncé l'UNICEF qui a rappelé que depuis près d'un mois, 1,8 million de personnes dans et aux alentours de la ville avaient été délibérément privées d'eau courante. Au micro d'Alpha Diallo, Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF, fait le point sur l'impact de cette crise de l'eau sur les enfants.
Depuis un mois, il y avait 1 800 000 personnes dans la ville et autour de la ville qui bénéficiaient plus d'eau. Aujourd'hui, cela change. Elle commence à revenir, cette eau, grâce à des réparations du système municipal, mais cela prendra au moins 10 jours pour qu'elle puisse être pompée régulièrement et être distribuée dans les différents quartiers.
Et ça veut dire qu'il y a des zones dans l'est d'Alep qui n'ont pas encore cette eau?
Absolument. Donc c'est un retour graduel. D'une manière générale, à l'ouest d'Alep, l'eau est de bonne qualité, elle est saine, parce que ce sont des puits qui sont soutenus par l'UNICEF et l'eau est testée. Mais à l'est d'Alep, la seule eau de qualité correcte, c'est l'eau que l'UNICEF et ses partenaires amènent en camion. Chaque jour, il y a 1 million de personnes qui reçoivent de l'eau, 700 000 essentiellement par camion, puis 300 000 avec des puits. Donc à l'est d'Alep, la qualité de l'eau des puits n'est pas garantie.
Donc ça prendra au moins 10 jours pour un retour définitif de l'eau dans toute la zone d'Alep orientale. Mais à la place, pour ces zones qui ne sont pas approvisionnées, que font l'UNICEF et les autres partenaires humanitaires pour leur fournir de l'eau?
Il y a 120 puits que nous soutenons depuis le début. Il y a le transport de l'eau en camion. Et puis nous fournissons également chaque jour 30 000 litres de carburant pour permettre à 4 stations de pompage de fonctionner. Nous distribuons également du matériel de purification d'eau qui permet justement aux utilisateurs de ces puits de pouvoir améliorer la qualité de l'eau.
Avec ce manque d'eau dans cette zone d'Alep, cela a quoi comme conséquence sanitaire pour ces enfants?
Les enfants, ce sont toujours les plus vulnérables en termes de maladies d'origine hydrique. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun cas d'épidémie qui a été identifié, mais le risque est là. Le fait que depuis un mois, il y a plus de 517 000 enfants qui étaient exposés au manque d'eau dans la ville d'Alep et plus de 215 000 enfants autour d'Alep qui n'avaient pas d'eau, ça, dans l'absolu, ça les a plongés dans des risques très importants de maladies d'origine hydrique, notamment les diarrhées qui peuvent tuer très rapidement des enfants et conduire à des situations de malnutrition aiguë, sévère.
Outre la situation à Alep, y a-t-il des zones en Syrie où l'eau est utilisée comme une arme de guerre?
Depuis 6 ans, toutes les parties au conflit en Syrie ont utilisé l'eau comme une arme de guerre, soit en contaminant les sources d'eau, soit en abîmant le matériel, l'équipement, ou alors en empêchant le carburant de venir alimenter les stations de pompage. Donc ça fait 6 ans que nous voyons en Syrie ce problème, l'eau utilisée comme arme de guerre. Juste ajouter que actuellement à Alep, la situation sécuritaire n'est pas complètement sûre, et le fait que des enfants passent des heures à des points de collecte d'eau, ça pose quand même un gros problème pour leur sécurité. Non seulement, évidemment, du fait qu'ils devraient être à l'école plutôt que d'attendre de faire la queue pendant des heures pour collecter de l'eau, mais ça favorise aussi leur circulation et donc ils sont exposés à des risques, soit avec des engins non explosés, parce qu'ils sont dans les rues pour aller chercher de l'eau, soit avec encore des problèmes sécuritaires qui perdurent à Alep.
Et c'est avec Christophe Bouliera que se referme ce journal radio d'ONU Info, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
16h16, bientôt 16h17. Merci d'être à l'antenne de CILS FM 107,9. L'émission Le Débrief se poursuit. Nous allons passer aux nouvelles provinciales. Je mentionne en passant qu'on a 10 degrés actuellement au centre-ville de Victoria à 16h17. Et ça va rester pluvieux au cours des prochaines heures, ainsi que demain 16 février. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 16 février. Et pour ce qui est des nouvelles provinciales, on commence ce bloc avec le discours du trône. C'était effectivement le discours du trône de Colombie-Britannique hier, mardi 14 février. Alors, c'est un important rendez-vous dans la démocratie britanno-colombienne. Ça inaugure les travaux d'une nouvelle session parlementaire, ici même à Victoria. Donc, je vous lis quelques lignes du papier qui a paru sur le portail de Radio-Canada sous la plume d'Anaïs Elbou-Djani. Un discours du trône à saveur électorale. Le discours du trône prononcé mardi à Victoria a mis en lumière les gains financiers de la Colombie-Britannique qui résultent d'une bonne gouvernance selon la province. Lu par la lieutenant-gouverneure Judith Guichon, le discours du trône décrit une série d'investissements et d'initiatives prises par le gouvernement. Selon le discours, la province devrait être débarrassée de sa dette dès 2021. Le surplus annoncé en novembre par la province, écrit la journaliste, doit s'élever à 2 milliards de dollars. La première ministre Christy Clark a notamment promis un allègement fiscal pour les citoyens de la province. Si elle ne s'avance pas sur la nature de ces allègements fiscaux, elle mentionne tout de même que le gouvernement accumule des surplus et donc il est naturel de redonner une partie de ces surplus aux citoyens. Les Britanno-Colombiens ont travaillé fort, a déclaré la première ministre. Notre gouvernement a contrôlé les dépenses, équilibré les budgets et contribué à payer la majorité de la dette, ce qui a abouti à des surplus. Donc ça, c'est le texte, c'est un extrait du discours du trône, lu par la lieutenant-gouverneure. Cet argent vous appartient et dans le prochain budget, notre gouvernement va soulager les contribuables. Donc une saveur électorale, en effet, comme l'indique le titre de cet article. D'autres allusions, poursuit la journaliste, aux allègements fiscaux ont jalonné ce sixième discours du trône de la 40e législature ici en Colombie-Britannique. Le chef de l'opposition, John Horgan, qui est le leader du nouveau parti Parti démocratique, oui, le NPD, pardon, s'est indigné de ce que le Parti libéral n'ait pas mentionné d'action concrète pour le ministère de l'Enfance et du Développement de la Famille. Nous avons vu budget après budget des réductions d'impôts pour les plus riches de la Colombie-Britannique, alors que tout le monde paie des frais qui ne cessent d'augmenter, a déclaré le chef néo-démocrate. Ces coûts mettent maintenant les familles en détresse. S'il leur manque un chèque, elles sont en situation de détresse financière. Le gouvernement tente d'acheter un soutien des électeurs à 90 jours seulement d'une élection, a déploré le chef des néo-démocrates. La lieutenant-gouverneure a aussi souligné l'approbation du projet hydroélectrique du CITC comme étant source d'emploi et d'énergie pour la province. Une manifestation se tenait au même moment devant l'Assemblée législative de Victoria pour dénoncer les projets énergétique de la province. Donc ça, c'est un papier assez général qui paraît sur le portail de Radio-Canada. C'est signé par la journaliste Anaïs El-Boudjani. Sinon, vous avez également dans le Globe and Mail un résumé des grandes lignes de ce discours du trône qui ouvre les travaux d'une nouvelle session parlementaire ici en Colombie-Britannique. Donc, il y a bien sûr les grands points et à commencer par ces promesses d'allègements fiscaux qui ne sont pas chiffrées. C'est ce que notent tous les journalistes. Aucune précision dans ces promesses. La première ministre, à travers le discours qui était lu par la lieutenant-gouverneure, s'est contentée de dire que les Britanno-Colombiens avaient mérité des récompenses pour les efforts qui avaient été consentis au cours des dernières années. Autrement, dans ce discours du trône, on a parlé d'immobilier. Le Parti libéral a plaidé que les politiques d'apaisement du marché immobilier avaient fonctionné. Donc la fameuse taxe de 15% sur Vancouver qui est imposé aux acheteurs étrangers serait efficace selon le gouvernement de Christy Clark, et par ailleurs le programme d'accès à la propriété qui vise la classe moyenne serait lui aussi efficace et aurait permis d'apaiser ce marché qui était stratosphérique jusqu'à récemment, été 2016. Autrement, bien sûr, il a été question d'éducation. Le discours n'a pas pu omettre de mentionner que la province avait perdu en Cour suprême contre les professeurs, les enseignants de la province de Colombie-Britannique, une cause qui s'était rendue à la Cour suprême du Canada. Donc, dans le discours du trône lu par la lieutenante-gouverneur Guichon, le gouvernement reconnaît qu'il devra se rendre au jugement de la Cour suprême. Rappelez-vous, la cause concernait la taille des classes, le nombre d'élèves dans les classes, les professeurs et le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, étaient en conflit depuis plusieurs années. Donc, le discours reconnaît qu'il y aura des changements. Et d'ailleurs, de premiers gestes ont été posés au mois de janvier avec un investissement de 50 millions de dollars dont on avait parlé dans le débrief. Un investissement qui sera en quelque sorte le premier jalon de ce rétablissement des fonds attribués à l'éducation dans la foulée du jugement de la Cour suprême. Autrement, dans ce même discours du trône lu hier 14 février, il a été question bien sûr de la crise des surdoses qui a causé tant de morts en Colombie-Britannique, 914 décès constatés dans la province en 2016, un record absolu du jamais vu. Et donc il en a été question, le gouvernement dans le discours du trône a indiqué qu'il était prêt à en faire davantage pour lutter contre cette crise qui s'attaque aux usagers de drogue, à des gens de tous les horizons. D'ailleurs, il sera question plus tard dans cette émission, en compagnie de Marie-Hélène Bourret, de la crise des surdoses telle qu'elle est vécue ici à Victoria. Donc, dans le discours du trône, le gouvernement de Christy Clark indique qu'il est prêt à en faire davantage. Et aucune précision n'a été fournie, malheureusement. Simplement un vœu pieux, si vous voulez, donc une intention qui est affichée d'en faire davantage. Donc, on saura plus tard. Il a été aussi question dans ce discours du trône, nous rapporte le Globe and Mail, qui en fait un bon résumé, de la guerre commerciale larvée dans le dossier du bois d'œuvre, une guerre commerciale qui va opposer le Canada aux États-Unis. Et bien sûr, quand on parle de bois d'œuvre, on parle de Colombie-Britannique. C'est une industrie très, très importante pour la province de Colombie-Britannique. Dans le discours du trône, le gouvernement a annoncé la nomination d'un envoyé spécial à Washington en la personne de David Emerson. David Emerson, c'est un ancien ministre du cabinet de Stephen Harper. Il a été ministre des Affaires étrangères dans le cabinet Harper à la fin des années 2000, peut-être vous vous souvenez de cet homme politique natif de Montréal, élu dans la région de Vancouver. Il a été nommé donc par le gouvernement de Colombie-Britannique pour négocier et faire pression, faire campagne auprès des Américains pour obtenir les meilleures conditions commerciales pour l'industrie du bois d'œuvre britanno-colombienne. Et ce même article du Globe qui fait la recension de tous les points abordés dans le discours du trône d'hier 14 février. Ce même article donc souligne qu'on n'a pas du tout parlé dans ce discours de la réforme du financement politique en Colombie-Britannique. Alors on sait que c'est un point litigieux, c'est une situation qui est maintenant connue dans le monde puisque le New York Times en a parlé récemment. La Colombie-Britannique fait figure de Wild West en matière de financement politique. Il n'y a aucune limite aux montants qui peuvent être donnés, qui peuvent être versés à des candidats politiques ainsi qu'à des partis. Donc, il est possible, si on le veut, théoriquement, de verser 1 milliard de dollars à un parti de son choix. Et évidemment, ça pose des questions très importantes, des questions qui ont à voir avec la démocratie et la transparence et finalement la probité de notre gouvernement. Alors oui, grand point manquant, grande omission, grave omission pourrait-on dire, dans le discours du trône d'hier, aucune mention de la réforme nécessaire du financement politique en Colombie-Britannique. Donc c'est dans cet article du Globe, je vous donne le titre tout de suite, Highlights from BC's Speech from the Throne. C'est dans le Globe and Mail d'hier hier. Et on poursuit cette revue des articles de Colombie-Britannique, donc ce bloc provincial. On apprend dans le Vancouver Sun que la compagnie Saputo va poursuivre le BC Milk Board. Donc le BC Milk Board, si vous voulez, en traduction rapide, c'est la régie de mise en marché des produits laitiers de la Colombie-Britannique. C'est un lobby. Le lobby du lait, si vous voulez, de notre province. Alors, la compagnie Saputo, qui est une entreprise de produits laitiers, fromage, lait, etc., qui est d'ailleurs basée à Montréal, poursuit notre régie du fromage en Colombie-Britannique. Alors, c'est un litige qui remonte à 2013. Du lait de mauvaise qualité, du lait compromis aurait été fourni à Saputo. Et le gouvernement se serait rendu compte de la non-conformité du lait, l'aurait avisé la compagnie, mais trop tard. Donc voilà, si vous voulez les détails de ce litige qui est maintenant devant les tribunaux, le titre de cet article du Vancouver Sun, c'est « Saputo sues BC Milk Board over contaminated milk ». Et de retour sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique, on apprend que les appels passés à la société ICBC, notre société de l'assurance automobile ici dans la province, ont augmenté de 45% en février. Vous vous doutez pourquoi? Ce sont les conditions météo. 45% d'appels en plus pour ICBC en février, en une semaine de chute de neige intense et inhabituel dans de nombreuses parties de la Colombie-Britannique, la société de l'assurance automobile de la Colombie-Britannique, ICBC, a constaté une augmentation de 45% de ses appels pour des réclamations entre le 7 et le 13 février. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, indique cet article de Radio-Canada. 25 460 appels entre le 7 et le 13 février 2017 contre 17 575 entre le 5 et le 11 février 2016. Donc une augmentation de 45%. Une augmentation qui s'explique, poursuit l'article, par une météo tout à fait exceptionnelle. Donc des conditions difficiles, des conditions météo qui ne sont pas propices du tout au transport automobile, transport tout transport finalement. Donc vous trouverez cet article très instructif sur le portail de Radio-Canada. En date d'aujourd'hui, et toujours à propos des conditions météo difficiles qu'on a connues il y a un peu plus d'une semaine et qui même se sont abattues sur Victoria, on l'a vu. Il y a un article intéressant dans le portail CBC en date d'aujourd'hui. C'est écrit par la journaliste Yvette Brand et c'est le témoignage, si vous voulez, d'une médecin qui devait traverser la Coquihalla, donc cette autoroute qui traverse l'intérieur du BC, Coquihalla, qui est une autoroute qui monte en hauteur dans les montagnes à plus de 1500 mètres, à plus de deux endroits. Il y a des cols très élevés et bien sûr la météo est assez difficile en ces endroits. Et des milliers de personnes passent là tous les jours. Alors, ce que dit cette médecin qui circulait récemment sur la Coquihalla, c'est que on gagnerait à informer davantage les automobilistes sur les dangers du transport hivernal, des déplacements hivernaux sur cette route de 324 kilomètres qui relie la ville de Hope à la ville de Merritt et à la ville de Kamloops, un petit peu plus loin. Alors, cette médecin qui voyageait avec ses deux jeunes garçons a dû passer la nuit dans sa voiture et elle livre ses impressions, ses observations. Elle dit qu'elle était bien préparée, mais que certaines personnes dans la société ne savent pas, gagneraient à être davantage informées. C'est pas tout le monde qui sait comment se préparer à passer une nuit dans sa voiture en cas de conflit conditions difficiles, des conditions de route, des routes fermées, de la glace. Donc les gens doivent s'arrêter et attendre les secours, le déglaçage, le déblaiement des voies rapides. Donc il y a des précautions à prendre et cette médecin croit que la population n'est pas suffisamment informé de ses précautions, sur ses précautions. On retourne dans le portail de Radio-Canada. Sur le campus de UBC, des recommandations suite aux agressions sexuelles qui avaient été déplorées sur le campus de cette université en région vancouveroise. Un groupe de travail qui réunit des membres des différentes communautés de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, a présenté cette semaine au comité des gouverneurs de l'établissement son ébauche pour une nouvelle politique de la gestion des agressions sexuelles. Le document propose deux nouveautés, la création d'un bureau de prévention et de soutien aux victimes, ainsi qu'un mécanisme d'enquête indépendante. C'est un article qui est signé par la journaliste Geneviève Miller. Vous trouverez ça sur le portail de Radio-Canada en date du mardi 14 février. UBC, des enquêtes indépendantes sur les agressions sexuelles sont recommandées. Et plus près de chez nous, dans le Media Times Colonist, notre journal local, on mentionne toujours à propos d'agressions sexuelles l'arrestation d'un homme âgé de 81 ans qui aurait commis des agressions sexuelles dans les années 80 sur des mineurs. Donc c'est dans le Times Colonist sous la plume de Katie DeRosa. Cet homme de 81 ans habite aujourd'hui Nanaimo, mais à l'époque des faits, il était à Saanich et quatre personnes, donc quatre femmes qui sont aujourd'hui adultes, accusent cet homme d'agression sexuelle. Il s'agit de Gerardus Wilhelmus Peters, donc qui est accusé. Il a été arrêté et devra faire face à la justice. Autre fait divers dans la région de Saanich, juste au nord de Victoria, un couple de personnes âgées a été victime d'hameçonnage, donc une arnaque en ligne perpétrée par courriel. En anglais, on appelle ça du phishing. Donc, ce couple de personnes âgées s'est fait soutirer une somme de 20 000 $ par des pirates, si vous voulez, des gens qui ont réussi à les persuader de fournir leurs informations bancaires, ce qu'ils ont fait, et par la suite, ils se sont fait arnaquer de 20 000 $. C'est rapporté par le Times Colonist. North Saanich couple bilked of $20,000 in email phishing scam. Ça, c'est en date d'hier, 14 février. Une nouvelle plus encourageante, plus réjouissante, si vous voulez, un don de $55 000 par année à perpétuité pour une petite municipalité. C'est dans TVA Nouvelles et vous allez voir, ça concerne la Colombie-Britannique. C'est un don qui a été fait par un couple de retraités de Colombie-Britannique à une toute petite ville de l'ouest du Manitoba. Donc c'est un don total de $12 000 000 créé par Lloyd Campbell. Il est né dans cette région du Manitoba. Il a plus tard fait carrière en Colombie-Britannique et il voulait redonner à sa région natale et il a donc versé un don à la petite ville de Minto. En fait, c'est un village de seulement 100 personnes qui va recevoir cette manne et pourra justement peut-être bâtir des équipements civiques, centres communautaires, etc. Alors, $55 000 par année à perpétuité grâce au don de ce Britanno-Colombien, Lloyd Campbell. Et un dernier mot dans ce bloc provincial, les Whitecaps se sont trouvés un nouveau joueur. Il s'agit de Freddy Montero, c'est rapporté par le portail RDS. Les Whitecaps de Vancouver ont ajouté du punch à leur attaque en faisant l'acquisition de l'attaquant Freddy Montero. Vous trouverez ça dans le portail rds.ca. On s'arrête quelques instants pour écouter une pièce de l'artiste Sally Folk. Ça s'intitule « J'aurai ton enfant quand même » et on se retrouve dans quelques minutes pour les nouvelles du jour.
j'ai de doute d'insécurité. Et considère-toi chanceux, je t'ai voulu pour nous deux. Oublie nos promesses d'escapade et de richesse, mes prouesses pour te convaincre, je t'ai voulu pour tes gènes. C'est accidentel, la pilule ou la querelle, tu la prendras la nouvelle, j'aurai ton enfant quand même. Dans ton cas, j'ai faim les règles. Oublie notre union qui se meurt de toute façon. Mais au moins, lui nous unira quand il t'appellera papa. C'est intentionnel, la pilule vaut ses chandelles. C'est risqué de te convaincre, j'aurai ton enfant quand même.
Alors des sonorités, j'ai envie de dire mexicaines, dans cette chanson de Sally Folk intitulée « J'aurai ton enfant quand même ». À 16h37 dans l'émission Le Débrief, l'info se poursuit et ça va très vite, le temps passe très vite. On va passer aux nouvelles du jour à présent et vraiment cette nouvelle a occupé l'actualité aujourd'hui. L'accord de libre-échange Canada-Union européenne, l'Europe approuve, c'est le titre de cette dépêche de l'agence France Presse. Le Parlement américain s'est prononcé mercredi 15 février en faveur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA comme on l'appelle dans son acronyme anglophone, objet d'une vie contestation. Avec ce vote favorable, une grande partie du texte devrait prochainement être appliquée de manière provisoire le temps qu'il soit ratifié par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne, ce qui prendra des années. Donc il sera déjà appliqué et les ratifications suivront leur cours au cours des prochaines années. Réunis en session plénière au Parlement de Strasbourg, les eurodéputés ont été 408 à se prononcer en faveur du texte, 254 à se prononcer contre et 33 à s'abstenir. Environ 700 personnes, selon la police, ont manifesté devant le Parlement de Strasbourg contre le texte, jusque sur le parvis ou, si vous voulez, l'entrée du Parlement européen. Plusieurs dizaines d'autres manifestants ont bloqué en se couchant par terre l'entrée du bâtiment dès le matin, retardant le débat de quelques minutes. Dire oui au CETA, c'est piétiner le peuple, pouvait-on lire sur une banderole à l'entrée du Parlement, tandis que d'autres manifestants affirmaient « démanteler la démocratie, hors de question ». Plus vous insistez, plus nous résistons. Les adversaires du CETA, poursuit cet article de l'AFP, le juge antidémocratique, trop favorable aux multinationales, léger sur l'environnement ou encore dangereux pour l'agriculture européenne. Le CETA est un accord progressiste avec un partenaire progressiste, a plaidé la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström face aux eurodéputés au cours d'un débat de 3 heures parfois houleux. Le premier ministre Justin Trudeau, notre premier ministre, doit s'exprimer dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg demain jeudi pour souligner, ouverture des guillemets, le caractère singulièrement progressiste de l'accord, un exemple pour les futurs accords commerciaux, fermeture des guillemets. Le texte appelé Accord économique et commercial global, en français, le CETA, supprimera 99% des droits de douane. L'accord était essentiellement soutenu par les eurodéputés de droite, ainsi que par les libéraux et la plupart des socialistes. Les Verts, l'extrême gauche, l'extrême droite et certains socialistes ont toutefois voté contre. La délégation socialiste et démocrate, SED, le deuxième groupe du Parlement européen a été particulièrement ébranlée par le débat sur ce texte, une partie de ses membres, bien que minoritaire, y étant opposée, et plusieurs se sont abstenus d'ailleurs. Tiraillés entre les deux allégeances de leur parti. Alors, les écologistes sont bien plus critiques. Ce sont parmi les critiques les plus virulents de ce CETA. Cet article de l'AFP cite le français Yannick Jadot, qui est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle française. Il est eurodéputé. Il qualifie le CETA d'aboutissement d'un processus de dérégulation et privatisation de la norme. Parmi les principales critiques, les écologistes et les autres eurodéputés de gauche, les tribunaux arbitraux qui sont amenés à être mis en place une fois que le traité aura été définitivement approuvé. Donc les craintes, évidemment, c'est que ces tribunaux arbitraux exercent dans le secret la semi-transparence et qu'ils aient le dernier mot et parfois droit de veto sur les décisions prises par les démocraties, les différents pays concernés par cet accord. Ces juridictions pourront être saisies, donc les tribunaux d'arbitrage en l'occurrence, pourront être saisies par une entreprise afin de demander réparation à un État qui aurait pris une réglementation soi-disant contraire à ses intérêts. Donc c'est là que le bas blesse. Le Parlement de la région francophone belge de Wallonie, on s'en souviendra, s'était vivement inquiété de ces dispositions et avait mené une brève rébellion l'automne dernier. Il en avait été question dans l'émission Le Débrief, d'ailleurs. Alors, au final, poursuit cet article de l'AFP, la signature formelle du traité par l'Union européenne et le Canada avait été retardée de quelques jours suite à cette rébellion de la Wallonie. Avec l'approbation du Parlement européen, donc qui est maintenant chose faite, un long et incertain processus de ratification du CETA s'ouvre désormais dans l'ensemble des pays de l'UE, ce qui ne manque pas d'influer sur les autres accords de libre-échange discutés par Bruxelles. Encore plus contesté, le TTIP ou TAFTA négocié avec les États-Unis a d'ores et déjà été gelé avec l'élection à la Maison-Blanche de Donald Trump. Donc voilà, c'est la nouvelle du jour, la principale nouvelle dont je voulais vous parler. Il y en avait beaucoup d'autres. Je voulais vous parler aussi du fait que Vancouver est dans le top 10 des villes les plus accueillantes pour les étudiants internationaux. C'est nouveau puisque l'année dernière, Vancouver s'était classée 13e. Elle a monté de 3 rangs et se trouve maintenant dans le top 10. Et c'est Montréal qui occupe le sommet de ce palmarès établi par une firme qui fait maintenant autorité dans ce domaine. C'est dans le journal Le Monde, palmarès des meilleures villes étudiantes, Paris détrôné par Montréal et Vancouver entre dans le top 10. Vous trouvez ça dans le journal Le Monde. Il y a aussi Ralph Goodale qui a déclaré aujourd'hui dans la foulée d'une visite aux États-Unis que la crise des surdoses aux opioïdes avait atteint une ampleur mondiale. Et c'est là-dessus que je vais nous diriger vers l'interview du jour, puisqu'il est question de cette crise des opioïdes. Vous le savez, la province de Colombie-Britannique est en état d'urgence sanitaire depuis le mois d'avril dernier. On en parle avec Marie-Hélène Bourret aujourd'hui. C'est dans quelques instants. Alors, on va parler à titre personnel. Marie-Hélène va nous relater une expérience qu'elle a vécue ici même à Victoria et qui illustre l'ampleur de cette crise. À tout de suite dans Le Débrief. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors, merci de venir au studio de CILS aujourd'hui pour parler de ce problème important des surdoses d'opioïdes en Colombie-Britannique. C'est une crise qui a atteint des proportions énormes l'année dernière et même en 2015. On est en état d'urgence sanitaire ici dans la province depuis avril dernier. Le triste record de 2015 a été battu en 2016.
Malheureusement.
On a eu, malheureusement, 914 décès par surdose. Plusieurs de ces décès ont été causés par le maudit fentanyl, qui est un opioïde très, très dangereux.
Et ça, c'est avant l'arrivée du carfentanyl.
Voilà, le carfentanyl a fait son apparition récemment. En Colombie-Britannique, alors c'est une substance qui normalement est utilisée pour tranquilliser les éléphants. Les dealers de drogue aiment utiliser cette substance parce que ça leur permet de réaliser des économies d'échelle, des économies dans le transport, puisque ça prend pas de place.
C'est
un petit grain. Des petits grains de rien qui sont ultra puissants.
Un grain peut tuer un humain.
Voilà. Donc ça se retrouve mélangé à toutes sortes de substances et l'épidémie de décès par surdose est une voie de conséquence.
Oui.
Alors, je te note un petit article qui a paru dans la presse aujourd'hui avant qu'on lance notre discussion à titre personnel.
Absolument.
Ralph Goodale, qui est notre ministre de la Sécurité publique au Canada, a déclaré que la crise des opioïdes a atteint une ampleur mondiale. C'est rapporté dans la presse canadienne en date d'hier, 14 février. Je vous lis le lead de l'article. Le ministre canadien de la Sécurité publique affirme que la crise des opioïdes au Canada et aux États-Unis est d'une telle gravité qu'elle a trouvé sa place dans la déclaration commune des leaders des deux pays lors de leur rencontre de lundi. Ralph Goodale a ainsi soutenu mardi que cette crise avait maintenant atteint une ampleur internationale. Donc, nous, on est vraiment dans l'épicentre de cette crise. On est dans l'un des foyers les plus virulents de cette épidémie de décès. Alors, aujourd'hui, on parle d'expériences qu'on a vécues à titre personnel, de citoyens, dans la cité. On ne travaille pas dans le système de santé.
Non, on n'est pas médecin.
On n'est pas médecin, ni infirmier, infirmière. Mmh. On n'a jamais touché à ces drogues-là.
Non.
Mais, à titre de personnel, on est des témoins oculaires et on a vu que des gens étaient sous influence ici à Victoria parce que la crise touche Victoria. Alors, on va commencer par ce que tu as vécu il y a quelques semaines à peine, ici même à Victoria. Peux-tu nous raconter ça?
Ben, en fait, parce qu'on est au centre-ville, on le sait qu'au centre-ville de Victoria, il y a beaucoup de jeunes de la rue. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très difficiles de survie. Et malheureusement, c'est souvent couplé avec des histoires de drogue. Je m'en allais au coin de Douglas et Yates. Il y a là une banque. Et avant d'entrer dans la banque, je vois une femme qui est arrêtée et est arrêtée avec une de ses amies devant un homme. Il y a une espèce de banc-pierre devant cette banque-là. Et l'homme, on le connaît, il joue du tambour là régulièrement. C'est un homme propre de sa personne. Alors, il faut pas croire que les utilisateurs de drogues intraveineuses, ce n'est que des gens qui sont sans abri.
Ouais.
Il y a des gens, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos mères, nos amis même qui sont utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement important de s'en souvenir.
Oui.
Alors, la dame en question, elle parlait au monsieur, il répondait pas. Il était comme couché, appuyé dans un drôle d'angle, aucune expression dans son visage. Et je m'approche, j'ai dit « Avez-vous besoin d'aide parce que j'ai mon cours de premiers soins? » Et elle dit, ben, je sais pas quoi faire. Ben, j'ai appelé le 911. Puis moi, je commence à parler au monsieur. Je voyais donc la pupille était très, très petite. Et ça, quand la pupille est comme une pointe d'aiguille, c'est vraiment un des symptômes qui a une overdose.
Oui. Okay?
Mais ça peut être d'autres choses aussi. Alors, on appelle quand même les ambulances.
Oui.
Hein? Bon. Puis pendant ce temps-là, je me rends compte qu'il respire presque pas.
Oui.
Alors, je dis, OK. Donc, il est possible que ça soit une overdose parce qu'on sait que les opioïdes, ils vont causer un ralentissement au niveau respiratoire et même un arrêt respiratoire. Et c'est souvent, l'overdose, c'est de là qu'elle vient, c'est d'un arrêt respiratoire. Alors, je parle au monsieur, j'ai dit, as-tu pris quelque chose? As-tu pris quelque chose? Il me répond pas, mais je sais qu'il me voit. Fait que j'ai dit, OK, look at me, just make sure you look at me, hey, hey. Puis toutes les fois que je voyais que son regard disparaissait, tu sais, il devenait comme vide, je disais, hey, wake up, man. Wake up, look at me, look at me. Mm-hmm. Et je le touchais beaucoup pour qu'il y ait comme un lien avec moi. La femme, toujours au téléphone.
Là, il était allongé sur le
pas
trottoir.
Encore, pas d'accord. Encore. Il est toujours assis dans un drôle d'angle sur ce banc de pierre. Comme... Une drôle de position. Je peux pas te décrire. Et les gens du 911 disent à la dame qui était avec eux au téléphone, allongez-le sur le côté. Alors, on l'allonge sur le côté, dans la position de recouvrement, comme on dit, pour s'assurer qu'il tombe pas ni d'un côté ni d'autre. Et si jamais il vomit, qui est un deuxième cycle aussi des overdoses, c'est qu'il peut avoir vomissement. Alors, s'il vomit, au moins, il s'étouffe pas sur ses vomissements. Et là, je me suis souvenu d'un truc. Il paraît que quand, et ça, c'est dans les trucs de premier soin, quand quelqu'un est à moitié conscient, si tu veux qu'il reste avec toi, avec les jointures du milieu de ton poing, tu frottes sur sa cage thoracique, sur son sternum.
Oui.
Ça fait très mal. Tu sais, faut que tu le fasses très fort.
Ça fait réagir. Physiquement.
C'est une très grande douleur, mais c'est pas dangereux, là. Et en ayant fait ça une couple de fois, il s'est mis à tousser. Je me suis dit, bon, on est correct, il tousse.
Oui.
Donc, le poumon essayait de respirer à nouveau. Finalement, les gens sont arrivés, les premiers soins, très rapidement, ils l'ont pris en charge, ils l'ont intubé, ils ont mis un truc dans son bras, un soluté. Bon, quand on a vu qu'ils avaient pris charge, nous, on s'en va. Et éventuellement, quand je suis sortie, je dis, vas-tu être correct? Ils m'ont dit oui. Et je regarde le monsieur, et... l'ambulancier lui dit « You're going to be all right, Tim, right? » Il connaissait.
Voilà.
Ça faisait plusieurs fois qu'il était en overdose.
Oui. On sait que, justement, à Vancouver comme à Victoria, des gens récidivent, retombent.
Ils sont accros aux opioïdes.
C'est
donc, il faut un traitement contre les opioïdes avant... d'aller vers le fentanyl, là, je veux dire.
Ouais. Bon. Il faut de la prévention, il faut un traitement, il faut des salles de piquerie supervisées.
Oui, absolument.
Donc, il y a tout ça, évidemment. Je pense que tu as probablement sauvé la vie de cet homme-là.
C'est possible, mais vois-tu, moi, ce qui m'a le plus touché, j'en ai reparlé avec des gens qui ont vécu sur la rue et qui ont vu ça encore et encore. Le monsieur, le Tim en question, il pleurait.
Après. Oui.
Et puis, j'ai dit, est-ce qu'il était content parce qu'il revenait? Ils m'ont dit non. Il était sans doute très triste parce qu'il n'était pas parti. Parce que ces gens-là, il ne faut pas oublier, moi, j'ai entendu des commentaires horribles, effroyables de la part des gens bien pensants, soi-disant, et qui disent « Ah, ils font exprès un instant. » C'est des gens qui sont dans une douleur incroyable. La détoxication de l'héroïne ou de n'importe quel opioïde est extrêmement difficile. On le voit d'ailleurs maintenant, il y a eu des articles dans les derniers jours qui disaient qu'on est vraiment inquiet sur la façon dont les médecins généralistes donnent des prescriptions pour des opioïdes.
Oui, ça a contribué à l'éclosion de cette crise.
Oui.
Pas seulement, mais c'est une des causes.
C'est une des causes.
Selon plusieurs observateurs.
Oui. T'as mal dans le dos, on te donne des médicaments avec des opioïdes dedans, t'en prends pendant 2 semaines, t'es accro. Après 3 jours, t'es accro.
Tu peux sortir dans la rue à la recherche d'un fixe.
Oui, parce que t'as plus de prescription.
D'une dose, oui, c'est
ça. Et il faut savoir aussi que l'addiction, elle n'est pas seulement au niveau psychologique, elle est physique.
Alors,
si t'arrêtes, OK, t'as besoin, t'as peut-être avoir du monde autour de toi qui vont dire, écoute, on va fumer un joint, ça va relaxer, on va aller prendre une marche, on va manger. Mais le problème, il est aussi physique. Ils te prennent pas en cours de désintoxication tant que t'as pas fait la détox physique, mais tu peux mourir de la détox physique.
Voilà. Et on revient un petit peu à ce que tu disais, il y a des gens de tous les horizons
oui.
qui succombent à ces surdoses-là,
oui.
des utilisateurs récréatifs
oui.
qui croyaient juste passer une belle soirée,
ouais.
Ils ont envie de d'un petit peu d'adrénaline,
ouais.
de vivre sur le fil un petit
ouais.
peu, mais en reprenant leur vie normale après la fin
ouais.
de semaine.
Ouais.
Et donc... Des rencontres comme celles que tu as faites, c'est courant à Victoria.
Ouais.
C'est évidemment très courant à Vancouver.
Ouais.
On avait un excellent papier le mois dernier sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada qui relatait une nuit à l'urgence de Vancouver. Et
ouais,
il y avait...
Ouais.
Des lignes dans ce papier qui étaient troublantes. Une jeune femme, notamment, qui avait été en mort clinique pendant 10
ouais.
minutes.
Ouais.
C'était une fille qui faisait la fête, tout simplement.
Ouais.
Elle avait pas vraiment le profil. Et souvent, les gens qui ont pas le profil, justement, sont moins préparés et plus...
Ouais.
Susceptibles
d'y rester. Leur environnement est moins préparé aussi.
Voilà.
Moi, j'ai entendu des choses qui se sont passées ici dans Helmken Alley, qui est au centre-ville.
Oui.
J'ai vu moi-même des jeunes qui allaient se piquer et des jeunes qui font la fête, bien habillés, tu sais, je veux dire,
mm-hmm.
pas des jeunes qu'on dit les jeunes de la rue, là, des gens, sans doute, très bien nantis, hein,
oui, oui, oui.
Et ils allaient se piquer dans Helmken Alley. Et c'est vraiment un mal de société. On va revenir au Naxolone tout de suite.
Oui, disons quelques mots sur le naloxone.